Bien, bah, je crois qu'on va pouvoir commencer cet après-midi consacré aux sciences humaines et à l'informatique. Vaste question, qu'on soit d'un côté, de l'autre ou entre les deux, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, je pense. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Bloomfield, voilà, qui est Prague à Paris 13 et qui participe ou a participé à différents projets de recherche, notamment un projet de recherche sur l'oulipo, l'if de peau, et également deux projets, le projet Manard sur les manifestes littéraires et artistiques du XXe siècle dans le monde, et sur la plateforme, je ne sais pas si je prononce bien, TL-Hub,
C'est ça.
voilà, qui permet aux auteurs et aux traducteurs et aux éditeurs d'avoir un espace de travail en ligne où travailler et échanger sur leur traduction. Et donc elle va nous parler aujourd'hui de la systématisation d'un objet non systématique, du manifeste à la base de données.
Merci. Merci aussi à Marie et Céline pour m'avoir conviée à cette journée d'études et au réseau IDPN en général qui soutient tous mes projets. C'est très appréciable. Alors je vais commencer tout de suite par une petite épigraphe qui dit un peu qui explique un peu mon goût pour l'interdisciplinarité. Je vais juste la lire sans la commenter plus avant, le reste de ma communication peut être perçu comme un commentaire de cette citation. Quand les chercheurs ressentent l'appel du large, il est rare qu'ils résistent à la tentation de nouer de nouvelles solidarités. L'interdisciplinarité est souvent le résultat de cette impatience des nouveaux continents. Alors, donc, à cette invitation reçue par Céline et Marie d'interroger l'interdisciplinarité et la manière dont celle-ci se réalise dans ma recherche et plus généralement au sein du DPN, j'avais plusieurs réponses possibles. Tant il semblerait qu'à la fois l'usage du numérique et la réflexion sur celui-ci pour les sciences humaines invitent les chercheurs à pratiquer cette interdisciplinarité. Je suis associée à UDPN au titre de plusieurs projets et j'aurais pu, par exemple, parler de Dif de Pau, cette entreprise d'édition électronique des archives de l'Oulipo que nous coordonnons avec ma collègue Hélène Campagnol-Catel à Paris 3 depuis 3 ans. Et je l'évoque très brièvement, parler notamment de ce travail que nous avons mené autour du séminaire Algorithmes, littérature, mathématiques et informatique, puisque il me semble donner une sorte de perspective historique à la réflexion d'aujourd'hui. On avait fait des séances sur, par exemple, la combinatoire, les graphes et les labyrinthes, une autre séance sur ce que nous avons appelé les premières machines à écrire, c'est-à-dire les générateurs de texte et autres programmes pionniers de poésie numérique. Ou encore, nous avions travaillé sur la manière dont de nombreux textes de l'Oulipo mettaient la mathématique en histoire, dans des récits, parfois des blogs, en des formes jamais traditionnelles. Voilà, donc de nombreux ponts avaient été mis en évidence, avaient été construits entre ces trois domaines, littérature, informatique et mathématiques, qui a priori tout éloignent. Et le point nodal de ces ponts, si on peut dire ça comme ça, ou le carrefour, était constitué par une histoire des sciences qui ne s'embarrasse pas, elle, des frontières disciplinaires. Et en particulier dans les années 60-70, au moment où la cybernétique, qui a beaucoup inspiré les écrivains, notamment Italo Calvino à l'Oulipo, cédait peu à peu la place à une nouvelle discipline, l'informatique, alors naissante. Les écrits des Oulipiens, notamment, utilisent des contraintes mathématiques, certains ici les connaissent, ou s'inspirent de langages informatiques pour repenser les formes littéraires du point de vue, notamment, de la structure. Donc, l'histoire des sciences comme approche possible de l'interdisciplinarité dans les humanités numériques, d'une part, mais aussi réflexion sur ce qu'on pourrait appeler de manière peut-être un peu grossière, un peu volontairement caricaturale, le systématisme de l'informatique versus l'antisystématisme des productions artistiques, qui se caractérise plutôt, on le sait, par la recherche de l'originalité. Aussi, plutôt qu'à l'histoire des sciences, c'est à l'histoire des arts que je voudrais m'intéresser aujourd'hui et à ce qu'une approche réellement transversale permise par le numérique stimule ou à l'inverse annule dans le dialogue entre les arts. Alors pour ce faire, je partirai du projet Manard. Vous avez ici une capture d'écran du site de Manard. Un projet qui est porté conjointement par Viviana Biroli, ici présente, Metegel, Audrey Ziane et moi-même depuis 2012. Et qui consiste principalement en le développement d'une base de données sur les manifestes artistiques et littéraires au XXe et XXIe siècle. Donc une base qui contient à ce jour 725 manifestes répertoriés, qui couvre un empan chronologique, alors c'est toujours un peu en discussion, surtout pour le début, de 1855 à 2016, qui, donc je voulais dire, est portée par quatre chercheuses, qui a connu déjà trois versions de la base, et je le dis parce que cette question des formats et de leur évolution est je crois aussi au cœur des préoccupations. Donc là, on est passé d'abord d'un tableau Excel à une base XML puis SQL. On a un peu tout essayé. Voilà, une base qui a été publiée en ligne ensuite sur un site. On en est à la troisième version du site aussi, qui est le site basemanard.com, avec possibilité donnée aux chercheurs d'alimenter, d'éditer cette base de manière collaborative. Et ça, pour nous, c'était très important, puisque l'aspect collaboratif favorise la participation de chercheurs venus d'horizons disciplinaires différents et avec des méthodes différentes. Des chercheurs qui potentiellement risquaient de ne pas se rencontrer scientifiquement ou pas avoir d'outils en tout cas pour échanger, puisqu'ils ont des méthodes différentes, etc. Alors pour l'instant, il n'y a pas de patrimoine numérisé à proprement parler en jeu dans ce projet, mais c'est une étape, c'est une base sur les manifestes, donc on renseigne des notices critiques et analytiques sur les manifestes, mais c'est l'objet même de la deuxième phase du projet, la numérisation des manifestes qui ne l'ont jamais été et la mise à disposition des numérisations déjà existantes ailleurs dans des collections patrimoniales. Et ça, c'est aussi, je pense que beaucoup d'entre nous ici sont confrontés à ça, une tâche assez difficile car elle nécessite de faire appel à de nombreuses institutions patrimoniales, bibliothèques, etc. et de développer des accords de diffusion, ce qui demande du temps, de la persévérance. Aussi, je mentionne cela pour souligner aussi que autant le numérique facilite la recherche sur les manifestes à travers les arts une fois que les outils sont mis en place, autant la mise en place elle-même peut être longue et fastidieuse, ce que d'ailleurs certaines présentations aujourd'hui n'ont pas manqué de souligner, à mon avis, à juste titre. Donc l'objectif scientifique de Manard est d'abord d'extraire de ces données sur les manifestes des statistiques qui permettront d'éclaircir l'évolution du genre, d'y découvrir de nouveaux éléments, ainsi que de dégager des pistes pour examiner les variations du genre au fil du temps. Quelle part le genre manifestaire fait-il à l'individu et au collectif? A-t-il encore une actualité aujourd'hui? Y a-t-il encore des manifestes aujourd'hui? Quelle est la grande époque? Ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs, comme on le croit souvent? Où est-ce qu'on produit le plus de manifestes? Les manifestes sont-ils toujours des textes? Voilà, quelques exemples de questions auxquelles la base vise à répondre. Alors les premiers résultats produits par notre équipe ont été publiés dans la revue Études littéraires, dans un numéro intitulé Manifeste, dirigé par Viviana Biroli et Metegel, qui s'appuyait largement sur la base pour démontrer l'existence d'un manifeste au singulier, pour un genre qu'on identifie généralement comme collectif. Et en fait, c'est effectivement à partir d'un travail statistique sur la base que nous avons pu apporter des éléments de réponse tangibles sur cette question. Metegel affirmait ainsi, par une analyse fine et approfondie d'une centaine de textes, donc elle s'est intéressée aux manifestes littéraires français, parce que ça fait partie des champs qu'on peut sélectionner dans la base, pour affirmer l'existence de nombreux manifestes écrits individuellement, par une seule personne, donc nuançant largement les idées communément admises sur le genre. Et c'est le schéma que vous avez derrière, avec les manifestes publiés, enfin en bleu les manifestes publiés dans le cadre d'un groupe et les autres publiés par une seule personne ou voilà, avec une fonction collective explicite ou non. Donc un autre questionnement qui avait été mené conjointement par Metegel et moi-même portait sur l'âge d'or du manifeste artistique et littéraire en France et confrontait les différentes méthodes d'interrogation de la base Manard. Alors ça c'est quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'est qu'on n'avait pas la même approche du manifeste, elle et moi. On n'avait pas la même définition de l'objet. Elle avait une approche plus restrictive, c'est-à-dire qu'elle partait de la définition. On a adopté une définition, qui est celle du TLF, et elle regardait les manifestes qui correspondaient à cette définition. Moi, j'avais une approche plutôt par la réception. Certains manifestes ne se déclarent pas comme tels, mais sont reconnus comme tels par la critique, sont revendiqués a posteriori comme tels, ou sont utilisés comme tels par les chercheurs ou même par les artistes. Donc, on a comme ça fait deux analyses d'une même question. Enfin, on a appliqué deux méthodes différentes d'interrogation de la base pour répondre à une même question. D'une part, Mété faisait sa recherche en considérant le manifeste, en ne prenant que les manifestes qui correspondaient à la définition du TLF. Et moi, j'ai fait la même recherche en considérant les manifestes dans un sens plus large qui étaient considérés comme tels selon leurs critères de réception. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on aboutissait à des résultats assez similaires. Alors, pas exactement les mêmes. Bon, je ne vais pas commenter longuement les schémas, là, j'ai pas le temps, mais simplement ça permettait à la fois de questionner notre objet de recherche, qu'est-ce qui fait d'un texte un manifeste, et ça annonçait déjà ce que Paul Aron nomme la valeur formelle et fonctionnelle du manifeste. Et pour nous, ce qui était intéressant aussi du point de vue de l'utilisation d'une base de données, ça montrait aussi d'une certaine façon la fiabilité de l'outil. Avec des méthodes d'enquête différentes, on avait des résultats très proches, donc on avait un échantillon qui pouvait se dire proportionnel. En tout cas. Alors un des aspects, à mon avis, les plus passionnants du manifeste, et qui demeure pourtant un point aveugle ou à tout le moins mineur de la recherche sur la question, est son interdisciplinarité exceptionnelle. Et là, je pèse mes mots, parce que, en fait, quand on se pose la question comme ça, c'est assez frappant. Quelle autre forme produite par des artistes retrouve-t-on en effet dans autant de domaines différents? On retrouve des manifestes absolument dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment, enfin, je ne connais pas pour l'instant d'autres formes qui touchent autant de disciplines différentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès son étymologie, le mot manifeste lui-même montre sa capacité à franchir allègrement les barrières disciplinaires. Tout comme son cousin, l'expression avant-garde, puisqu'il relève à l'origine du vocabulaire religieux, puis commercial et politique, précisément même militaire, hein, c'est une déclaration que font les princes par un écrit public des intentions qu'ils ont, et puis ensuite vers les arts, il migre vers les arts en une étonnante reconversion, et aujourd'hui on le considère davantage comme un écrit par lequel un mouvement littéraire ou artistique expose ses intentions, ses aspirations. Alors dans une définition qui tournait le manifeste en dérision, le dadaïste Tristan Tzara ne manquait pas d'ailleurs de railler cette aspiration universelle du manifeste en écrivant « Un manifeste est une communication faite au monde entier où il n'y a comme prétention que la découverte du moyen de guérir instantanément la syphilis politique, astronomique, artistique, parlementaire, agronomique et littéraire. » Donc on voit que cette ambition universelle, totale du manifeste se réalise par-delà les arts. Alors, à l'occasion d'un numéro de revue qui est à paraître, la revue Artex, une nouvelle revue belge sur les écrits d'artistes, Audrey Ziane et moi-même avons récemment invité des chercheurs à réfléchir à cette question de l'interdisciplinarité, enfin du rapport entre le manifeste et les disciplines, par l'identification à la fois de points de rencontre entre les arts et la reconnaissance de l'irréductible singularité des œuvres et des domaines. Ce qu'on pourrait appeler ce caractère indiscipliné et revêche qui fait tout le charme de la forme manifestaire. Alors, peut-on penser une évolution homogène du genre du manifeste aussi bien en art qu'en littérature, en architecture, en théâtre, au cinéma? Donc, je voudrais convoquer ici et quel rôle joue le numérique aussi dans cette approche interdisciplinaire? Alors, je voudrais convoquer ici une notion proche de l'interdiscipline, sur le plan sonore comme sur le plan sémantique, qui est donc celle d'indiscipline. Dans un numéro de la revue Hermès, donc celui dont j'ai tiré la citation que j'avais mise en épigraphe, ce numéro se présentait d'ailleurs comme le manifeste du renouveau des sciences de la communication. Jacques Perriot et Jean-Michel Besnier analysaient les principales attitudes repérables chez les chercheurs qui pratiquent l'interdisciplinarité. Alors j'en ai relevé une en particulier, selon laquelle l'interdisciplinarité se veut une stratégie de production des savoirs et de pratiques, de savoirs et de pratiques au sein de réseaux et d'associations tels que la découverte de l'un rétroagit sur la recherche de l'autre, qui offrira en se réalisant du grain à moudre à la synergie formée par les deux. Cette pratique épistémologique est ainsi une façon de mettre en évidence la vanité de la fragmentation des savoirs, et c'est ça qui m'intéresse, à l'heure où la fluidification des données se trouve induite par les technologies d'information et de communication. Et il me semblait que cette citation décrivait bien les opérations intellectuelles que permet une base de données informatique telle que Mana. Mais les deux auteurs associent surtout les notions d'interdisciplinarité et d'interdiscipline et indiscipline, en tant qu'elles sont génératrices d'interactions. Ils reconnaissent la fécondité de l'anarchisme épistémologique, j'aime beaucoup cette expression, et le pouvoir d'innovation à l'œuvre dans toute stratégie de décentrement. Alors, et ils considèrent, et moi avec, l'indiscipline comme la condition des véritables découvertes. Dans ce cas, l'indiscipline désigne non seulement donc, l'approche épistémologique dont je vous parle là tout de suite, mais aussi, bien sûr, la dimension subversive des manifestes eux-mêmes et leur caractère indéfinissable. Alors, penser classer le manifeste par discipline ne relève donc pas tant d'une tentative de taxinomie visant à produire un ordre que d'une valorisation de la résistance de cet objet aux efforts de catégorisation. Alors pour ce genre non figé, dans l'essence même et justement de s'élever contre l'immobilisme de la pensée, il faut se souvenir que le manifeste n'existe pas dans l'absolu. il n'existe qu'en lien avec le domaine qui l'a produit, le champ artistique dans lequel il a émergé. Et autrement dit, une nouvelle définition du manifeste, pour lui être fidèle, ne peut être que dynamique et relationnelle. Et je choisis ces mots-là, évidemment, en les pesant, puisque dynamique et relationnelle sont deux termes qui évoquent fortement le réseau et la culture numérique, et en particulier les bases de données, parfois dites relationnelles. Alors comment s'est passé concrètement le recours à un outil numérique pour étudier un objet des humanités ? Donc le manifeste à l'épreuve des humanités numériques. Nous avons d'abord fait, je vous le disais, un tableur Excel, tout simple, qui a permis de faire surgir des questions de fond concernant le recensement, la fortune critique, la réception des textes en tant que manifeste. Alors, l'analyse même des problèmes de méthodologie que nous avons rencontrés nous a permis, en fait, de faire évoluer nos questionnements sur le manifeste. Et c'est ça qui m'a semblé intéressant, c'est que, enfin, j'anticipe déjà sur ma conclusion, mais là où nous avions l'idée d'utiliser un outil informatique pour mener nos questionnements, finalement, c'est l'outil informatique qui nous a interrogés aussi. Donc, parmi les champs que nous renseignons pour chaque manifeste dans notre base, vous avez la liste complète ici, il y avait évidemment celui du domaine d'appartenance, qui s'est révélé particulièrement épineux, notre objet questionnant sans cesse, on l'a dit, les frontières disciplinaires. Alors, le premier obstacle fut d'éviter d'enfermer le manifeste. Et donc, pour ça, on a, dans des taxonomies existantes, mais qui ne correspondaient pas forcément à notre objet. Donc, on a constitué notre propre liste de domaines, en fait, de manière empirique, à partir de l'échantillon de 700 et quelques manifestes que nous avions. Au fur et à mesure que nous ajoutions parfois des catégories. Autre problème, l'extension du corpus. Est-ce qu'on doit intégrer des manifestes politiques dans une base sur les manifestes artistiques et littéraires ? D'un côté, cela augmentait sensiblement le nombre des entrées, et puis ça dépassait un petit peu le champ de compétences de l'équipe, il faut bien le dire. Mais en même temps, il semblait absurde d'exclure le politique d'un type de texte qui est éminemment politique, évidemment. Donc, on a trouvé des solutions. La solution adoptée fut d'inclure des textes qui, s'ils avaient un contenu très politique, devaient aussi avoir un lien évident avec l'art, par la qualité de leur producteur, leur contexte de production ou le domaine concerné. Vous avez ici un extrait, enfin une capture d'écran aussi de la base de données avec le moteur de recherche par type de domaine. Ensuite, évidemment, certains manifestes étaient à cheval sur plusieurs domaines, plusieurs disciplines, et nous avions aussi des informations plus ou moins précises sur les manifestes. Donc par exemple, on a dû hiérarchiser en fait l'information en catégories, sous-catégories, etc. Donc vous avez ainsi, voilà, vous avez art appliqué, art numérique, etc. La base est remplie en anglais, donc c'est pour ça que vous avez ça en anglais. Et donc, il peut arriver qu'un manifeste soit étiqueté à la fois avec une catégorie générale et une sous-catégorie. Par exemple, le manifeste du surréalisme relève évidemment de l'art et de la littérature en général. Et pourtant, il semblait judicieux de lui attribuer également le label poésie, étant donné la forte présence des poètes dans le mouvement. Cette hiérarchie nous a permis aussi de penser la présence du politique en lien avec la création par des sous-catégories littérature politique ou art politique. Alors, par exemple, le manifeste de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, l'AER, relève tout autant du littéraire que de l'artistique ou du politique. Et donc, on a pu, comme ça, en contournant un petit peu ces séparations disciplinaires, l'intégrer à Mana. On peut ensuite interroger la base sous, donc voilà, la liste complète des domaines que nous avons recensés. On peut interroger la base sous l'angle disciplinaire et essayer de regarder dans quel domaine on trouve le plus de manifestes, ou moins, etc. Alors, la recherche que j'ai faite, là, porte sur l'état de la base au 29 mars 2016, et Manard contient alors 77 manifestes relevant de plus d'un domaine, sur un total de 725 entrées, soit un pourcentage de 10%, 10,6%. On peut aussi affiner la requête en la restreignant aux manifestes qui relèvent de plusieurs domaines, mais sans tenir compte des associations art et une sous-catégorie art performance, etc. Bon, je vous passe les détails techniques, mais voilà, on trouve, quand on affine un petit peu la requête, on trouve 61 résultats, soit un pourcentage de 8,4% du total de nos données, ce qui est un chiffre suffisamment considérable pour conforter notre idée du manifeste comme objet essentiellement, enfin pas essentiellement, mais souvent interdisciplinaire. On s'est intéressé aussi aux manifestes qui relevait de trois domaines, qui étaient catégorisés selon au moins trois domaines, ce qui correspondait à un total de 1,7% de l'ensemble. Donc voilà, c'est la liste que vous avez là. Et l'on voit que cette propriété n'est pas caractéristique d'une époque en particulier ou d'un mouvement en particulier. On en trouve un petit peu partout. On peut aussi se demander dans quel domaine le manifeste est le plus présent. A-t-il la même importance, par exemple, en théâtre, en cinéma, en bande dessinée? Là aussi, la base permet une vue assez claire la répartition des manifestes par domaine. Alors là aussi, il faut tenir compte, pour analyser ces données, c'est toujours la même question qu'on posait tout à l'heure aussi, de qu'est-ce qu'on fait des données chiffrées une fois qu'on a produit les chiffres. Il ne faut pas tout prendre au même niveau, hein. Les chiffres pour art et littérature sont comparables puisqu'il s'agit de deux surcatégories, donc ce sont les deux premières lignes que vous voyez là. Et on peut rapprocher les chiffres de certaines sous-catégories, par exemple poésie, on a 109 manifestes, théâtre, 20, d'ailleurs l'écart est très saisissant entre les deux. Comme l'est d'ailleurs la prégnance évidente de la poésie sur les autres arts dans la production de manifestes. Alors voilà, il faut traiter ces données avec précaution. Certains domaines sont peut-être surreprésentés par rapport à d'autres. C'est une base qui était encore en cours de construction, en fonction des gens avec qui on travaille aussi. Mais je vous disais, on a quand même une certaine représentativité de notre échantillon et donc il me semble une certaine fiabilité quand même des résultats. Voilà, alors parmi les travaux qui ont le mieux exploité la base du point de vue disciplinaire, l'article de Viviana Biroli sur le manifeste architectural contemporain, par exemple, mettait en évidence une nouvelle fois la pertinence du questionnement sur les critères de définition du manifeste. Elle se posait la question, pour identifier des pics de publication des manifestes architecturaux, doit-on inclure ceux qui résultent d'une commande ou d'un phénomène de rétroaction? Un exemple d'étude possible avec ce type d'approche. Voilà, donc ce sont simplement quelques pistes de réflexion, d'une réflexion encore ouverte, où l'on voit néanmoins que l'on est contraint de pratiquer des sortes d'acrobaties informatiques pour faire entrer un objet patrimonial protéiforme dans un système numérique dynamique. On en est au début de cette recherche, je vous l'ai dit, elle va s'enrichir des scans, des manifestes qui permettront de commenter aussi visuellement les textes. Vous avez là quelques exemples de manifestes qui sont visuellement très différents, il y a par exemple un parfum qui se considère comme un manifeste, qui se revendique comme un manifeste, puisque voilà, les manifestes ne sont pas toujours des textes. Mais on peut déjà en conclure à un niveau plus général que la mise en base de données du manifeste, qui avait été initialement pensée, je vous le disais, simplement comme outil pour notre recherche, s'est révélée en fait riche de questionnements qui ont, au final, fait évoluer notre définition du genre, nous autorisant notamment à ne pas le figer dans une définition sclérosante, forcément unique, mais au contraire, autorisant des approches multiples et propres à circonscrire d'une façon plutôt évolutive, un objet qui ne se laissait pas facilement circonscrire. Je vous remercie.